loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Larry. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans les westerns, il y a toujours un moment où le héros, taciturne et solitaire, débarque dans une ville esseulée au milieu d'un désert et se demande ce qu'il est venu faire là. À la lecture du premier livre de Marine Dumerger, Le Prince de Kalmouki, paru en France aux éditions Marchali, c'est aussi ce qu'on se demande, ce que le héros, bien réel de son livre, est venu faire dans cette petite république russe isolée au milieu de la steppe, à plus d'un millier de kilomètres de Moscou. Kalmouki, le nom, surprend déjà. Beaucoup d'entre vous qui nous écoutez l'entendaient peut-être d'ailleurs pour la première fois. Et c'était mon cas, je l'avoue, quand j'ai plongé dans ce récit où l'on croise des Russes blancs exilés, des moines bouddhistes un peu chamanes, un président mégalo champion d'échecs qui roule en Rolls dans une déglingue russe où plane l'ombre de Gengis Khan, Pushkin ou Staline. Là-bas, la steppe et le désœuvrement dominent, les troupeaux d'antilopes, emblèmes de la Kalmoukie, se tiennent à l'écart des hommes, et les péracatipoles, ces herbes sèches virevoltant, roulent au sol, comme dans les westerns, tiens. On le sait, ce genre américain, au départ, le western, c'est bien souvent la mise en récit de la colonisation. Un dessin largement éprouvé aussi chez les soviets d'hier, comme dans la grande Russie d'aujourd'hui, et c'est ce que l'on va voir cette semaine avec Marine Dumerger, partie depuis Moscou, en Kalmoukie.
En octobre 2021, je découvre la Kalmoukie. Je dois pour cela prendre un avion qui descend vers le sud de la Russie, à Volgograd. Comme partout, les low-cost se sont multipliés. La Sibérie ou le Caucase devenus accessibles en quelques heures, parfois pour une trentaine d'euros. À l'aéroport, j'emprunte un minibus collectif. C'est Marshrutka qui quadrille le territoire. En tant qu'étrangère, je suis invitée par le conducteur à m'asseoir à la place du mort, la plus confortable du véhicule. Après avoir mis une bonne heure à quitter les faubourgs de Volgograd, l'ancienne Stalingrad, la martyre, bétonnée à se pendre, nous débouchons sur la steppe, une étendue monotone que seuls quelques lacs immobiles, des creux quasiment asséchés, viennent troubler. Nous roulons 4 heures et quelques 300 km avant d'arriver à Elista. Avec ses aires d'Asie centrale, ses temples bouddhistes, une lumière claire et continentale, Elista possède une sobriété sèche. Le ciel y est omniprésent. Des terrains vagues sont délimités par des clôtures en plastique. C'est une ville aérée. Elle n'a rien d'oppressant comme peuvent l'être la majorité des villes russes. Elle ressemble plutôt à un gros bourg de province, assoupi avec des couleurs qui s'effacent, des trottoirs qui se fissurent ou poussent les adventices, des ventilateurs en plastique, postés sur le côté des bâtiments. À l'automne, tout y est ocre et poussiéreux.
Marine Dumerger, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on vient d'entendre un extrait de votre livre, Le Prince de Kalmoukie, où l'on comprend bien quand même qu'on n'arrive pas par hasard en Kalmoukie. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené, vous, là-bas? C'est l'attrait pour les confins russes, pour ces petites républiques oubliées, parfois grandes aussi?
Oui, tout à fait. C'est comme je le raconte dans mon livre, c'est en effet un attrait pour le territoire russe au sens large du terme, puisque j'ai été basée pendant 2 ans à Moscou, où j'étais journaliste et correspondante, et où on me demandait beaucoup de traiter des sujets politiques, des sujets vus de Moscou, et moi je voulais continuellement en fait prendre la tangente et aller découvrir ce territoire grand, ce grand territoire au sens géographique du terme, que ce soit la Sibérie, l'Extrême-Orient, le Grand Nord, ou alors le Caucase ou les portes du Caucase, comme ici en Kalmoukie.
Donc il y avait un appel du large, en quelque sorte.
Oui, il y avait un appel du large et une propension à se trouver tout de suite projetée un peu dans des aventures lointaines et
improbables, on pourrait dire.
Improbable, ou en tout cas à parler de ce territoire qui est très différent d'une région à une autre et que l'on connaît assez peu en fait.
Sachant que la Kalmoukie, on peut peut-être la situer, c'est au sud-ouest de la Russie, entre la mer Caspienne et le Caucase.
Oui, c'est ça. Alors grossièrement, la Kalmoukie, c'est entre l'Ukraine et le Kazakhstan.
Oui, ce sera plus parlant.
Voilà, c'est entre Volgograd. Alors pour ceux qui connaissent un peu mieux, entre Volgograd, Rostov sur le Don et Astrakhan. Et c'est au nord du Caucase, de la région du Daghestan.
Et notamment. Alors ça ressemble vraiment à ce que vous décrivez, j'imagine, puisque vous l'avez écrit. Mais en tout cas, c'est vrai que vous parlez de décors ocre, poussiéreux, de steppes infinies, presque d'un espace désespérément plat, avec des villes un peu désolées, esselées.
Alors en fait, la Kalmoukie, c'est à peu près grand comme l'Irlande. Et on a trois villes, dont Elista, où il y a 90 000 habitants.
Qui est la capitale, ouais.
Qui est la capitale. Et une grosse partie du territoire, je le disais là, 80% du territoire est en cours de désertification. Ça ressemble à l'Asie centrale, ça pourrait être en Mongolie. Un paysage de steppe avec un désert qui avance sur la steppe. Très peu de villes. Surtout des villages et qui sont pour beaucoup désertifiés, donc très peu de gens y habitent encore et un sable qui avance.
Un étonnant voyage dans la steppe russe, c'est le sous-titre de votre livre. Et c'est vrai, on en a déjà parlé là, que vous nous offrez un curieux voyage, c'est déjà le vôtre. Mais c'est surtout d'abord celui de Serge, un personnage qui est au centre de votre récit, un Français qui pourrait paraître égaré un petit peu dans ses confins russes, mais qui n'est pas tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet homme, Serge, puisque en fait, il faut le dire, c'est lui le prince de Kalmoukie, en tout cas dans votre livre, tel que vous l'appelez.
Oui, tout à fait. Donc en fait, Serge, c'est le fil rouge de mon récit. C'est autour de lui que se déroule l'histoire. Serge, il a une histoire assez incroyable. Il a un pédigré remarquable puisque c'est un descendant du poète Pouchkine du côté de son père et du côté de sa mère, c'est un descendant d'une famille aristocrate kalmouk, des cavaliers nomades. C'est une origine lointaine qui à l'époque, était une famille princière en Kalmoukie. Donc, il a ce double pédigré très prestigieux. Et lui est d'origine russe, mais a grandi en France. Il est français, en Belgique également. Belgique et France, il habite en France en tout cas. Et il est démarché pour venir visiter sa région, la région d'origine de sa famille. Donc ça, ça se passe avant le Covid. Et lui qui ne connaît pas vraiment la Russie, a juste mis les pieds une fois, décide de partir là-bas et il est si bien accueilli sur place qu'en fait il décide de s'installer là-bas. Et donc, grâce au prestige de sa famille, il veut démarrer une nouvelle vie en Kalmoukie. Et donc, c'est ce que le récit raconte.
Sachant qu'avant de rencontrer le prince Serge, entre guillemets, c'est ce que vous racontez dans votre livre, vous avez vécu, et vous l'avez dit, et travaillé à Moscou. Et déjà là-bas, depuis Moscou, ça faisait longtemps que vous vouliez aller en Kalmoukie. Mais c'était pour un autre personnage, un politicien russe pas piqué des vers, en la personne de Kirsan Ilyumdjinov. On écoute une archivine à France Culture datant de 2010.
Alors dire de Kirsan Ilyumdjinov qu'il est un président hors du commun, ça tient à la fois du cliché et de l'euphémisme. Alors président, il l'est même deux fois, de son pays d'abord, la République de Kalmoukie, et ensuite de la FIDE, la Fédération Internationale des Échecs. Il était champion de son pays à 14 ans, il a voulu faire de sa République le paradis mondial des échecs, il y a pour partie réussi. La petite République est pauvre, mais l'homme est très riche, une richesse acquise en très peu de temps au moment de la chute de l'URSS. On n'en dira pas plus, parce qu'on n'en sait pas plus d'ailleurs, sinon qu'il collectionne les Rolls, par exemple. On ne finirait pas d'énumérer ses extravagances, mais l'actualité d'abord. Kirsan Ilyumdjinov est sur la sellette car suspecté d'avoir livré des secrets d'État de la Russie, à des extraterrestres. Cela s'est passé en 1997, le 18 septembre pour être précis, c'était un samedi soir. Kirsan Ilyumdjinov se reposait dans sa maison de Moscou, il allait s'endormir quand il entendit qu'on l'appelait depuis son balcon. Il va voir ce qui se passe et se trouve devant une sorte de tunnel, c'est lui qui raconte tout ça, semi-transparent dans lequel il rentre. Il est alors accueilli par des créatures en formes humaines, revêtues de combinaisons spatiales jaunes. Après quoi, les extraterrestres, car ce sont eux, lui offrent un tour de vaisseau spatial avant de le ramener chez lui le matin suivant, juste à temps pour rassurer son chauffeur et deux de ses collaborateurs qui, ne le trouvant pas à la maison, s'apprêtaient à lancer les recherches. Alors, entre-temps, Kirsan Ilyumdjinov a beaucoup parlé avec les visiteurs en combinaison jaune. Alors, en quelle langue? Petit mystère. Enfin, il dit qu'ils ont seulement échangé des idées. Alors, n'a-t-il pas fait des confidences plus précises qu'aurait mis en péril la sécurité de la patrie? C'est en tout cas ce dont s'inquiète très sérieusement le député Lebedev qui demande au président Medvedev d'éclaircir la question et de juger si du coup Kirsan Ilyumjinov est digne de rester à la tête de la Kalmoukie.
Marine Dumerger, alors si Serge est le prince de Kalmoukie, on peut dire que ce Kirsan Ilyumjinov a été pendant longtemps, 17 ans, le roi de la Kalmoukie. Alors un roi, on l'a entendu, ubu en quelque sorte, à la limite de l'absurde, et en même temps, c'est un personnage bien réel qui est à l'image des oligarques au destin assez hallucinant qui ont émergé à la chute de l'URSS.
Oui, alors en effet à l'image des oligarques, mais lui vraiment à un degré complètement hallucinant. Kirsan Ilyuminov, c'était le pro des interviews fracassants, des révélations. Voilà, il a cet exploit de faire parler de son pays, de la Kalmoukie partout à l'étranger, que ce soit repris par les médias américains, japonais, européens. Et la première fois que j'entends parler de la Kalmoukie, c'est en effet lors de sa dernière année au pouvoir, donc on est en 2010 et
juste avant qu'il le quitte,
juste avant qu'il démissionne, et à cette époque, voilà, il est en fin de règne, mais il a pu organiser notamment des tournois d'échecs, des compétitions internationales d'échecs en Kalmoukie, parce qu'il était également le président de la Fédération des échecs, la FIDE internationale, et puis voilà, il a fait toute une série de mesures. Il avait rendu les échecs obligatoires comme discipline à l'école.
Il a créé une ville quasiment, ou en tout cas, il avait des rêves de grandeur pour la capitale Elista. Il y a cette ville, Chess City,
voilà, un
qu'on
quartier.
Découvre dans votre livre avec ce damier en noir et blanc, un musée des échecs qui aujourd'hui a l'air de vivoter, voire d'être fermé. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il a façonné quand même la capitale à son image. Oui. Assez étrange.
Oui, c'est ça. Et par ses décisions qui faisaient la une de la presse, mais aussi par la construction d'un immense temple à Elista. Il a énormément financé le renouveau de l'église bouddhiste. Ça a été un des artisans un petit peu de cette nouvelle identité aussi kalmouk qui a émergé à la fin de l'Union soviétique.
Mais justement, on se demande les Kalmouks dans tout ça, en fait. Parce qu'en vous lisant, on sent, au fil du temps et de l'histoire, la grande histoire, on sent que ce peuple affiche en tout cas aujourd'hui une certaine résignation. D'autres plus optimistes diraient résilience. En tout cas, on voit que les époques, les guerres, les présidents milliardaires comme ce Kirsan Ilyumjinov passent et eux restent. Et ça, d'ailleurs, c'est le nom. Kalmouk, ça veut dire en turc, je crois, ceux qui restent. D'où ça vient ce nom ?
Alors, ce nom vient parce que les Kalmouks, en fait, sont issus d'un peuple nomade qui est venu au cours du XVIIe siècle chassé par les conflits en Mongolie et au niveau de la Chine actuelle. Donc, ça a été un peuple de nomades, en fait, qui a fui les guerres pour venir s'installer là.
Les Wirats, c'est ça ?
Les Warat, oui.
Warat.
Et une partie de ce peuple s'est installée. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était ceux qui restent. C'est de là d'où vient l'appellation. Ils se sont installés justement dans cette région aujourd'hui située au sud de la Russie. Savoir s'ils sont résignés ou résilients, il faut regarder aujourd'hui la mentalité russe, mais aussi l'histoire qu'ont traversé les Kalmouks. Ils ont été forcés à quitter le territoire. Il y a eu une répression importante sous Staline dans les années 40. Et c'est une histoire difficile qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve dans le discours des gens une certaine résignation, qui fait qu'on a l'impression que, quoi qu'il arrive, ils se disent que ça passera et qu'ils se sentent toujours un peu victimes et un peu coupables aussi.
Justement, on va en reparler de ces grandes blessures de l'histoire, mais d'abord, on va écouter une grande figure kalmouk, proclamée plus grand artiste de cette petite république, en la personne de Oknat Sahamdzam, si je dis bien le nom, un ambassadeur donc de sa culture kalmouk et du chant diphonique mongol. Tout de suite, on l'écoute avec Djangar sur RFI. Баса замба түйген дүрәң ділділіксін шекерліған әрі дұндай Шилта замдан қолына да дұндай Әргін
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Voici ce qui demeure d'un grand peuple d'Asie, les Kalmouks. Leurs ancêtres, il y a bien longtemps, quittèrent les montagnes de Mongolie pour les plaines de la Russie du Sud, où ils vécurent pendant des siècles en paisibles bergers, avant d'en être chassés par les Soviets. 600 d'entre eux purent s'enfuir de l'Europe orientale, laissant des milliers des leurs dispersés dans toute la Russie. Pour ces évadés, un seul espoir, trouver un pays qui leur permette de reconstruire leur foyer. Mais il y a bien des choses, hélas, que l'on ne peut ressusciter. Des blessures qui ne se cicatrisent pas, des cauchemars que rien ne peut faire oublier.
Marine Dumerger, on vient d'entendre une archivina de la propagande américaine qui date de 1947, quand les États-Unis revendiquaient après-guerre ouvrir leurs bras et les portes de leur pays aux Kalmouks, qui avaient été malmenés par l'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous y avez fait référence juste avant. On a entendu parler de blessures, de cauchemars que l'on ne peut pas oublier. Évidemment, ça fait référence à cette déportation de 1943. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement ?
Oui, tout à fait. Alors moi, en chiffre, j'avais à peu près 90 000 personnes qui sont déportées cette année à l'hiver 43. En fait, nous sommes à ce moment-là, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, un bataillon Kalmouk s'est formé en soutien au régime allemand qui est arrivé jusqu'ici et qui s'appuie à ce moment-là sur les nationalismes en fait, qui ont émergé sous l'URSS pour asseoir le pouvoir allemand. Et donc un bataillon Kalmouk se forme et à la défaite nazie, à la défaite allemande, Staline va considérer en effet que les Kalmouks sont des ennemis à abattre et va déporter des traîtres voilà, à la nation et à l'URSS et va en déporter une grande partie.
Oui, c'est quasiment la déportation d'un peuple tout entier. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un bataillon et finalement c'est tout le peuple entier Kalmouk qui prend.
Oui, voilà, c'est tout le peuple qui va avoir quelques jours pour réunir ses affaires et être dispatché, voilà, sur tout le territoire, voilà, sur notamment vers la Sibérie, l'Extrême-Orient, en prenant soin de séparer les groupes et avec une interdiction de la langue kalmouk. Donc, c'est ce qui se passe pendant la déportation.
Sachant qu'après, au retour, les chiffres ne sont pas très clairs. Vous vous dites un quart du peuple kalmouk qui ne reviendra pas, d'autres disent un tiers, parfois la moitié. En tout cas, on comprend bien que c'est un peuple disloqué qui retourne sur ses terres, mais qui n'a jamais meurtri. Et c'est vrai que dans votre récit, à un moment, vous allez dans le musée d'histoire à Elista, où justement on en parle. Il y a des monuments qui rappellent l'exil et le retour. Il y a aussi Zanda, qui est une traductrice avec qui vous travaillez, qui raconte comme ça le sort de sa grand-mère. Et elle le raconte d'une manière assez particulière, puisqu'elle fait... En fait, on sent qu'il y a un très grand silence autour de tout ça. Mmh. Et que finalement, c'est le passé, on n'en parle plus.
Oui, alors c'est un élément clé dans l'identité kalmouk et il y a des commémorations, une statue, il y a des monuments qui font référence à cet épisode de la déportation. C'est quelque chose qui est très présent dans l'identité kalmouk, mais à la fois dans le cas de Zanda, par exemple, est-ce que c'est un tabou dans sa famille? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est un sujet qui est douloureux et qui est très peu évoqué dans la famille. Et c'est vrai que quand je lui demande justement si je peux réaliser un interview, elle refuse et elle me dit que non, c'est pas possible, que c'est trop douloureux et que de toute façon, l'information s'est un peu perdue entre les générations, entre sa grand-mère et sa mère.
Alors par contre, ce qui demeure, et vous l'avez évoqué, c'est le fait que la culture et la tradition bouddhiste soient revenues en même temps finalement que le peuple, même si ça a été longtemps interdit. Et aujourd'hui, on peut dire que la Kalmoukie est la seule, ou en tout cas enclave, région bouddhiste d'Europe. Entre un Caucase musulman, vous écrivez, une Russie orthodoxe. C'est donc un socle puissant qui renaît, c'est ce qu'on dit. C'est en tout cas ce que nous dit cette archivina, datant de 2016. Elle est tirée d'un reportage à Elista, la capitale de la Kalmoukie, par nos confrères d'Accent d'Europe pendant les fêtes de la célébration de Bouddha.
Les derniers arrivés assistent à la prière depuis l'encadrement de la porte. Le refuge d'or est complet. Au centre, une immense statue dorée de Bouddha. C'est la plus grande d'Europe, elle fait 9 mètres de hauteur. Depuis les années 90, la Kalmoukie renoue avec ses traditions perdues dans les troubles du XXe siècle. Au moment de la révolution bolchévique, en 1917, de nombreux Kalmouks prennent parti pour les contre-révolutionnaires, d'autres émigrent. Et durant la Seconde Guerre mondiale, après la débâcle allemande de Stalingrad, Staline accuse les Kalmouks de trahison et collaboration avec l'ennemi nazi. Ils sont déportés en Sibérie. Le grand temple d'Elista a été construit en hommage aux victimes de la déportation. Bassan Zakharov, historien local.
Pendant la guerre civile, la moitié des Kalmouks a été tuée. Sans compter le génocide culturel, on a détruit les écrits, l'intégralité des temples. Et en 1943, il y a eu la déportation en Sibérie, durant laquelle 40% des Kalmouks sont morts. Mais nous avons survécu grâce à cette philosophie, rester positif envers et contre tout, et ne jamais capituler.
En 1956, après la mort de Staline, les Kalmouks sont réhabilités et autorisés à rentrer. Mais la pratique du culte reste interdite jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Dans cette région très peu peuplée, le renouveau religieux a été favorisé par un homme d'affaires en échange d'une loyauté politique à l'égard de Moscou. La Russie est un pays multinational et multiconfessionnel. C'est l'idée qui imprègne aujourd'hui chaque discours officiel du président russe.
Marine Dumerger, ce bouddhisme au bord de la Volga, comment est-ce que ça se manifeste concrètement à Elista et en Kalmoukie plus largement ?
Bah, déjà, c'est la présence de temples. Il y a beaucoup de temples.
Bah, il y a ce très grand temple.
Il y a ce très grand temple.
Bouddha, Shakyamuni, c'est ça ?
Oui, voilà. Qui est en effet imposant. Je crois qu'on dit que c'est un des plus grands temples d'Europe.
Pharaonique. Hein, 25 millions déjà, ça a coûté de dollars pour le bâtir, dans une région très pauvre. Alors ça peut aider les fidèles, hein, finalement, la foi. Ça nourrit pas le corps, mais peut-être l'esprit. En tout cas, il y a ça, il y a effectivement ce marqueur qui est très fort. Mais au quotidien, comment est-ce que ça se passe chez les Kalmouks ?
Bah après, c'est en effet la venue au temple. Après, ça c'est différent chez les jeunes, parce que j'ai rencontré des jeunes qui se disaient... Alors déjà, il faut préciser que sur la population kalmouk, il y en a à peu près 40% qui sont bouddhistes.
Sur 300 000 habitants, à peu près.
Voilà. Il y a quand même une partie qui est...
orthodoxe.
Pareil, 40% qui est d'origine ethnique russe. Et puis, il y a aussi une migration du Caucase. Donc, il y a aussi une présence musulmane. Donc pour les bouddhistes, c'est ça, c'est aller au temple, quoique les jeunes n'y vont pas toujours. Puis après, c'est des pratiques, voilà, on va voir l'astrologue, par exemple, au temple, quand on a, je sais pas, un mariage à organiser, une opération, un voyage, on va le consulter pour savoir le meilleur jour où y aller, où consulter. C'est également aller faire des prières. Et puis après, dans les petits villages aussi, c'est des constructions de monuments, de stupas par exemple, qui n'ont pas forcément un grand temple comme à Elista. C'est surtout comme ça que ça se perçoit dans le paysage.
Et puis c'est un bouddhisme, c'est ce que vous dites, qui est aussi mélangé, il y a un syncrétisme comme ça, avec des pratiques païennes en fait, ancestrales, chamaniques même.
Alors, en fait, ça correspond à la branche du bouddhisme tibétain. Et après, ce qui s'est passé, c'est que vu que la religion a été interdite sous l'URSS, le culte a été repris, en fait, par des personnes laïques, donc pas par des religieux, mais par souvent des femmes qui faisaient les cérémonies elles-mêmes dans leur cuisine quand c'était interdit. Et donc, c'est vrai qu'il s'est imprégné de pratiques populaires, en fait, de pratiques qui n'étaient pas encadrées. Et à ce titre-là, ont souvent intégré des pratiques qui étaient plus chamanique, donc voilà, on allait voir un arbre, une source, voilà, c'était où on consultait. En fait, il y a aussi un clergé qui est un peu en parallèle. Il y a un clergé qui est le clergé officiel du temple officiel, et puis à côté, il y a des gens au sein de la population qui sont plus des références avec des soins par les plantes, mais qui sont pas, qui font pas partie du clergé officiel.
Alors, on a beaucoup parlé du peuple Kalmouk et vous avez vu, j'ai pas beaucoup parlé de Serge, le fameux prince qui est au centre de votre récit. On en parle juste après avoir écouté Voyou et Vanessa Paradis sur RFI qui nous emmène au bal.
Sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. En quelques pas de danse, c'est vrai, j'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle à mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cil m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai.
Se fige sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée.
Me rejoint pour une danse à ses côtés.
On a dansé des années à perdre la tête.
J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes. Mais souvent les valses se soufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin.
Si loin, si proche, on continue de voyager en Kalmouki en compagnie de l'autrice et journaliste française Marine Dumerger, qui vient de publier en France aux éditions Marchiali Le Prince de Kalmouki. Un épatant récit à la découverte de cette république isolée située au sud-ouest de la Russie. Un lieu méconnu par les Russes eux-mêmes qui concentre pourtant tous les ingrédients d'une folle histoire, digne d'un roman russe à la sauce, peut-être Bulgakov, l'auteur du magistral Maître et Marguerite, même si en Kalmouki on ne croise pas de chats géants. Alors à propos des ingrédients, Marine Dumerger, on a campé le décor, ocre, poussiéreux, des steppes infinies, des villes désolées. Les personnages ensuite, des Kalmouks, héritiers de cavaliers mongols, bouddhistes, malmenés par l'histoire, on en a parlé. Il y a aussi ce président excentrique, ancien président, qui débarque dans la steppe en limousine, et ce Français, Serge, fils d'une grande lignée Kalmouk vénérée là-bas, qui a décidé de partir en Kalmoukie pour mieux s'y réinventer. Serge vient justement donc de cette grande famille, vous en avez parlé, de Russes blancs exilés, les Tundutov, si
oui,
c'est bien ça.
Les Tundutov, oui.
Et donc il a été appelé à revenir dans le pays d'origine de sa famille. Et puis aussi, il est issu, vous l'avez dit, d'une famille de poètes. Parce que finalement, à tous ces ingrédients qu'on a nommés, parce qu'il y a la tragédie de la grande histoire, il y a aussi Kirsan avec ses extraterrestres, ce président apporte un peu de fantastique, manque alors finalement la poésie russe, bien sûr.
Quand j'étais petit, naturellement, ma grand-mère, elle me berçait avec Pouchkine, comme tous les enfants russes. Et quand elle me berçait avec les contes de Pouchkine et avec Eugène Onéguin, et j'avais 3 ans, je connaissais par cœur Eugène Onéguin, sans doute pas tout le roman, mais enfin de longues parties. Il n'y avait rien de particulier à ça, hein, tous les enfants de l'intelligentsia font ça. Pouchkine, c'est ça, c'est l'enfance. Hein, c'est-à-dire que, il y a, comment vous dire, il y a l'air qu'on respire et il y a Pouchkine. Et c'est la même chose. Et donc, je sais absolument que Pouchkine est le plus grand poète qui ait jamais vécu. Bon. Je sais que cette phrase est absurde. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour un non-russe, le plus grand poète qui ait jamais vécu? C'est une phrase simplement absurde. Et malgré tout, je sais ça. Et pourquoi? J'en sais rien. Je suis né avec ça. Et voilà, et ça sera comme ça. Et comment expliquer ça? Je sais pas.
Marine Dumerger, dans cette archive INA France Culture, le traducteur, grand traducteur André Markovitz, vient de parler de son attachement viscéral au grand poète Alexandre Pouchkine, un attachement qui est personnel, mais qui finalement est aussi celui de tout un peuple. Et ça, en Kalmoukie, on voit bien, avec Serge, descendant de Pouchkine, que pour lui, c'est un sésame. Ça lui ouvre toutes les portes, finalement, que de revendiquer cet ancêtre, illustre ancêtre. Vous dites que c'est un laissez-passer VIP, en quelque sorte.
Oui, alors pour Serge, disons qu'il a deux laissés-passer VIP au niveau de la Russie sur le territoire entier du pays, c'est Pouchkine, et en Kalmoukie c'est ça, c'est la famille Tundutov. Voilà, en Russie en effet, Pouchkine, il est considéré comme le plus grand poète russe, celui qui a modernisé la langue. Il est on dit il y a Dieu et puis Pouchkine, c'est vraiment notre Victor Hugo, mais dans un pays où on aime tellement la littérature que c'est un nom très prestigieux. Après, en Kalmoukie, c'est plutôt son pédigré Tundutov, donc cette famille de cavaliers qui est venue.
Mais quelle porte ça lui a ouvert concrètement? Parce que cet homme, il débarque, il est accueilli en prince, il se réinvente là-bas, il décide de s'y installer avec son petit chien et puis avec son père. Il a un projet de maison un peu modèle, en kit, pas cher, qui veut d'ailleurs appeler les maisons Pouchkine. Ce qui est assez particulier. C'est un hommage, on peut dire. Mais finalement, ça lui ouvre quoi comme porte?
Eh ben, à son arrivée, ça lui a ouvert un accueil. Voilà, il a été invité dans des cérémonies. Au tout départ, il est contacté parce que c'est une costumière qui veut créer une collection de robes. Voilà, en s'inspirant notamment des robes de son arrière-grand-mère. Donc c'est comme cela qu'il est contacté. Et donc au départ, en fait, c'est surtout on l'invite, voilà, à des commémorations, pour un festival. Et donc c'est là où il se dit je vais pouvoir grâce à mon nom m'installer et pouvoir développer justement son projet de maison, donc un projet de BTP, de construction de maison à bas coût. Voilà, et c'est là où en effet le projet devient plus compliqué, parce que ce qu'il pensait devenir aisé pour lui, c'est-à-dire s'installer, pouvoir monter son entreprise, voilà, avoir le passeport russe, s'avère beaucoup plus compliqué que ce qu'il pensait.
Surtout qu'entre-temps, la grande histoire a rattrapé la petite, celle de Serge, avec l'invasion russe en Ukraine et la guerre qu'on connaît là-bas depuis 2 ans déjà. Et vous, Marine Dumerger, vous décidez quand même, alors que plus aucun avion ne se rend en Kalmoukie, que les journalistes étrangers, qui plus est, sont invités à quitter la Russie, vous, Vous décidez de retourner en Kalmoukie après y être allé une première fois, avoir rencontré Serge. Vous allez à Moscou et vous partez avec Serge depuis Moscou en voiture, parce qu'il n'y a pas d'avion, ce qui donne lieu à un voyage assez surréaliste sur la magistrale numéro 4, direction la Kalmoukie, avec d'un côté les touristes qui partent en minibus en vacances et de l'autre les chars qui avancent vers l'Ukraine. Pourquoi est-ce que vous êtes retournée à ce moment-là, Marine Dumerger, en Kalmoukie ?
Je suis retournée à ce moment-là parce que je devais partir en fait quelques jours au moment où les chars russes ont pénétré sur le territoire ukrainien en février 2022. Je devais partir en Russie et tout est tombé à l'eau à ce moment-là. J'ai pour habitude de partir en reportage en Russie. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'y vais plusieurs fois par an après y avoir vécu, et c'est vrai que les projets sont tombés à l'eau en février, mais je me suis dit il faut quand même que j'y retourne parce que j'avais envie d'aller voir en fait ce qui se passait là-bas. J'avais envie de peut-être de comprendre un petit peu mieux, et en tout cas de rencontrer un peu les gens, les habitants, et de voir un peu le quotidien là-bas.
Un quotidien, j'imagine, différent, puisque on l'a dit, la Kalmoukie, c'est voisin de l'Ukraine. Donc au tout début, et j'imagine encore plus aujourd'hui, ça a eu des répercussions. Notamment, il y a eu des grandes vagues de mobilisation pour partir au front chez les Kalmouks. On va chercher souvent dans ces lieux oubliés les forces.
Bon, c'est voisin, mais il y a quand même plusieurs centaines de kilomètres entre Elista et l'Ukraine. En fait, la Kalmoukie est une région très pauvre. C'est une des régions les plus pauvres de Russie. Et donc, comme toutes les régions pauvres, en effet, de Russie, elles servent à la mobilisation des hommes. Donc, c'est vrai que la population là-bas a été... On n'a pas les chiffres, il est difficile de savoir, mais les Kalmouks disaient que la mobilisation y était forte.
Il y en a beaucoup qui décident de fuir. Parce que dans toute cette partie-là, vers la fin de votre récit, c'est ce qu'on découvre. C'est que finalement, il y a beaucoup de gens que vous aviez rencontrés qui sont partis. Il y en a d'autres qui décident de partir après votre départ et dont vous prenez des nouvelles et qui ont fui en Mongolie, ailleurs, parfois en France.
Oui. Alors moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés, en effet, sur place, sont partis. Ont quitté la Kalmoukie. Après, est-ce que c'est parce que c'était des gens qui étaient déjà plus tournés vers l'étranger, qui faisaient partie d'un même réseau de personnes. Mais oui, ils sont partis, en Géorgie, comme vous dites, en France. Ils ont fui la mobilisation.
Et alors, en conclusion, Marine Dumerger, dans votre récit, on sent chez vous un grand attachement à la Russie, et puis à ces peuples si divers, et à toutes ces républiques, et notamment là, en l'occurrence, à ce peuple kalmouk. Et au fur et à mesure, à force de vous lire, on s'attache aussi à eux. Et effectivement, j'ai envie de vous demander, en conclusion, comment ou en sont les kalmouks aujourd'hui, justement dans ce contexte de 2 ans de guerre en Ukraine Comment est-ce qu'il se vit ? Vous prenez des nouvelles ?
Aujourd'hui, je prends toujours des nouvelles de quelques personnes que j'ai croisées dans le livre. Ce qu'on me dit, c'est que tant que les frigos sont pleins, les gens ne disent rien. C'est sûr que c'est une région pauvre, donc qui va pâtir si la situation économique se dégrade. Ça ne va pas arranger en effet la condition de la région, qui est en plus soumise à un réchauffement climatique qui est très fort. Donc
il n'y a pas d'eau.
Il y a des gros problèmes d'eau, en effet, des gros problèmes de sécheresse qui ne vont pas s'arranger avec les prévisions et de plus la guerre en Ukraine qui bien sûr impacte sur le budget russe et la redistribution aux régions. C'est vrai que l'horizon pour la Kalmoukie aujourd'hui paraît assez terne, ça c'est sûr.
Donc le western finit. Pas très bien, on ne sait pas encore. Il n'y a pas de fin, de toute façon, pour l'histoire d'un peuple.
L'histoire, bien sûr, va continuer. Après, c'est sûr qu'on n'est pas dans une happy end. Non.
Marine Dumerger, merci.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Marchiali, Le Prince de Kalmoukie. Merci à la documentation de RFI, à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour leurs archives. Laura Larry, Céline Develay-Mazurel et Jérémy Boucher, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux voyages, si loin, si proche.
En raison d'un mot d'ordre de grève, RFI n'est pas en mesure d'assurer son programme habituel. Merci de votre compréhension.